Moi, ça fait 13 ans que je pratique une pédopsie de secteur. J'avoue, j'y suis arrivée complètement par hasard, parce que durant mon internat, je n'ai pas du tout été en contact avec la question du secteur ni la pratique du secteur, sauf une toute petite séquence où j'ai passé un an à l'unité mère-enfant à Montesson, et ils sont rattachés au secteur de Colombes. Et l'interne devait animer un groupe d'observation sur le secteur. Donc une matinée par semaine, j'y passais. J'avais trouvé ça intéressant, mais c'était très loin de tout ce que j'apprenais de l'unité mère-bébé qui, à ce moment-là, me passionnait. Donc effectivement, le hasard total. J'étais dans un séminaire pour valider mon DES et quelqu'un me parle d'un poste d'assistant sur le 14e. Donc j'ai postulé et j'ai commencé comme ça, voilà, il y a 13 ans. Donc, je dois dire qu'au début, j'y connaissais pas grand-chose, et que c'est avec l'expérience et sur le terrain que j'ai appris mon métier. Alors, juste quand même, ce qui est assez étonnant, si on parle du 14e, c'est-à-dire que y a eu quand même deux choses qui se sont un peu rejointes. C'est que Linda Morisseau, que j'avais connue à l'unité mère-bébé de Montesson, je l'ai retrouvée sur le 14e, parce qu'elle prenait, au même moment où moi j'ai pris mon poste, la guidance brune et la responsabilité de l'hôpital de jour, au moment où Antoine Guénet partait. Donc finalement, on s'est retrouvés dans le 14e. Et au tout début de mon internat, une copine m'avait traînée dans un des de Gaulle, ça va, en disant, mais viens voir, il parle des fœtus comme si c'était des personnes, c'est incroyable. Donc j'avais été, et finalement je retrouvais quelque chose qui m'avait quand même pas mal concernée sur le 14e. Alors pourquoi j'y suis restée? Parce que effectivement il y a eu des effets de rencontre de personnes. Je dois dire par exemple que Fabienne Castagnier m'a transmis totalement son savoir-faire avec les patients, elle-même qui était passée par l'hôpital de jour de la guidance brune, et qui m'a presque donner le flambeau presque. Elle partait à la retraite de son poste de praticien hospitalier et j'ai repris son poste. Mais dans tout le temps de mon consultanat, elle m'a formée. Voilà. Donc il y a eu cette rencontre avec Fabienne Castagnier, ça a été très important. Et puis, on a été tout un lot, je dirais, de jeunes médecins dans le service. Où là, il y a eu aussi un effet de rencontre et d'émulation où on a eu très envie de poursuivre ce qu'on avait commencé à construire. Alors peut-être sur le secteur, oui, alors avec Olivier Ginoux, avec Marie Terral, avec Maureen Goffinet, mais aussi sur la question de la cure institutionnelle qui fait partie de notre service, mais qui n'est pas une pratique de secteur, qui est accolée au secteur. Et que moi, j'ai très vite perçu que dans ce service-là, il y avait quand même des outils très intéressants, très complémentaires, qu'il n'y avait pas ça partout, que j'étais presque dans un luxe comme ça, et que ça, j'en ai pris la dimension quand même, je ne sais pas, assez vite, et j'ai voulu, voilà, continuer et faire perdurer un peu tout ce que j'apprenais sur le terrain. Avec des gens d'une très grande qualité, même en dehors de l'équipe médicale. Moi, ce que j'ai perçu enfin très vite, c'est qu'effectivement, j'avais une tranche de société devant moi, presque. Enfin, c'est-à-dire qu'on est complètement inclus dans la cité, avec le rapport qu'on a avec le réseau, avec les écoles, avec les partenaires. Je dois dire que c'est ça, c'est-à-dire que c'est comme si il n'y avait presque pas tellement de continuité dans ce que j'avais appris dans mon internat. Enfin, c'est vraiment il faut qu'on se questionne là-dessus. Et la façon dont finalement j'étais en poste dans mon assistanat où je découvrais un autre métier. Alors évidemment que j'ai beaucoup travaillé avec la théorie psychanalytique, enfin j'ai travaillé ça de mon côté, mais ce dont j'avais besoin dans la pratique, je l'ai appris sur le terrain. Voilà. Et puis, alors, je pense que j'étais aussi au contact de gens qui étaient assez engagés politiquement, il y avait des personnes dans l'équipe qui étaient là depuis le début du secteur, ou presque de ce secteur-là, qui a une histoire particulière. C'est quand même le secteur qui a été fondé par Michel Soulé, un des premiers secteurs pilotes voilà, en France, que lui avait eu l'ambition au départ de faire ce qu'il appelait le secteur unifié de l'enfance, où finalement dans cette pratique du quotidien, il voulait aussi qu'il y ait un axe de prévention très très fort. Et du coup, il avait comme ça tissé quelque chose avec Saint-Vincent de Paul, avec le foyer de Saint-Vincent de Paul, et puis tout un travail social en amont très très fort pour éviter les placements, pour éviter voilà, tout ce qui relevait de, j'ai envie de dire, de la maltraitance globale de l'enfant. Donc quand même, cette histoire-là, cet héritage-là, je le sentais, même si Soulé était vivant encore, il venait très peu au CMP Corentin, même s'il venait aux fêtes qu'on faisait, par exemple. Je le sentais quand même dans la façon dont les gens étaient très engagés dans leur clinique. Et que ça, on y adhère ou on n'y adhère pas, mais on est pris dedans, on est pris dans ce mouvement-là. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Alors, moi, c'est marrant parce que très vite, j'ai été assez émue par cette question qui va à contre-sens de tout ce qui se fait maintenant, c'est-à-dire de la prise en charge globale, mais vraiment globale. C'est-à-dire que finalement, on rencontre une famille ou un enfant et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et le temps se déroule pas du tout dans l'immédiateté, mais dans justement un temps indéfini. Et je trouve, alors moi là je peux le dire après plus de 10 ans de pratique, où cette temporalité ouverte, non définie, permet aussi tous les aléas de la rencontre, en bien ou en mal, mais aussi ça permet quand même, c'est vraiment quelque chose qui n'existe, que je n'ai pas trouvé ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas le symptôme de l'enfant qui va diriger les choses, c'est la façon dont la rencontre va se tisser et ce qu'on va proposer, évidemment, comme soin. Mais voilà, ça m'a... je pense que la question du secteur porte pour moi deux valeurs que je suis en train peut-être plus de réfléchir maintenant dans la maturité de ma pratique. C'est la question temporelle. Vraiment, il y a une temporalité qui est vraiment totalement à part, je trouve, parce que effectivement, on est un chef d'orchestre, on va peut-être mener un projet de soins qui va se faire ailleurs, mais on reste le port d'attache, parce qu'il faut quand même qu'on soit garant d'une certaine continuité. Ça, moi, j'y tiens beaucoup. Et l'autre valeur, je trouve, et je sais de quoi je parle, puisqu'on a été directement attaqué là-dessus, c'est la question de l'espace. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas faire une pratique de secteur dans n'importe quel lieu. Il faut des lieux adaptés à ça. Voilà. Donc, la question temporo-spatiale, qui fait partie beaucoup de notre clinique, moi, je trouve aussi, fait partie de notre pratique. C'est-à-dire qu'on doit défendre quelque chose d'une certaine temporalité et d'une certaine spatialité pour l'accueil des familles dans une pratique de secteur. Voilà, et puis, alors, je ne sais pas, Bonafé disait beaucoup, que Lucien Bonafé disait beaucoup qu'il faut une certaine poésie aussi pour soit être bon psychiatre ou bon psychiatre engagé. Je pense que si on n'induit pas quelque chose de sa subjectivité ou de la façon dont on s'engage dans la rencontre, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, alors c'est partout pareil, c'est partout en analyse, c'est partout... dans une pratique de psychiatrie institutionnelle, mais je trouve que dans la pratique de secteur, il faut que ce soit assez vivant, qu'on soit assez vivant soi-même, parce que quand même, on est au contact de choses très douloureuses quand même. Et puis, alors l'autre chose, je trouve, dans l'engagement politique aussi, moi, ce que je dirais maintenant, c'est... finalement, aujourd'hui, je trouve que toutes les institutions font beaucoup du psychosocial. Une espèce d'hybride comme ça entre la valeur sociale ou les problématiques sociales qui effectivement embolisent beaucoup de choses dans la clinique, mais aussi tout ce qui est psychologisant ou la façon dont la société a eu comme ça une façon de peut-être vulgariser l'approche psychologique ou psychanalytique, je ne sais pas comment le dire. Mais je trouve qu'on fait éprouver aux familles quand même quelque chose, une espèce de redondance dans nos pratiques. C'est-à-dire que moi, je le vis par exemple avec les partenaires sociaux de l'aide sociale à l'enfance ou quand on met en place une AEMO, on a l'impression qu'on fait tous finalement la même chose. Alors, plus ou moins bien, plus ou moins en concordance avec la problématique de l'enfant, mais il y a quelque chose qui quand même ne nous différencie pas assez au final, je trouve, dans ce qu'on fait éprouver aux familles. Et ça, c'est une vraie question pour moi. Qu'est-ce qui fait que les familles arrivent à nous dire mais je ne comprends rien, pourquoi tout le monde me pose les mêmes questions, pourquoi vous avez l'air... Voilà, donc ça, moi, j'ai aussi envie d'un peu d'interroger cette question-là. Que le secteur ne peut pas exister sans la dimension sociale, mais on a aussi une dimension clinique qui est notre, j'ai envie de dire, notre responsabilité, le soin,
c'est
quand
ça,
même.
Aussi.
Voilà, et là... Mais qu'est-ce qui fait que de cette hybride psychosociale, on a l'impression qu'elle s'exporte un peu partout, on la trouve partout, sans pour autant répondre forcément de façon différenciée et dans la symbolique de la différenciation pour aider les familles. Ben, j'ai envie de dire que ce qui est le plus éprouvant, alors évidemment, on est, le secteur il est pris dans le plan d'austérité que connaît la santé, et la psychiatrie en général, je trouve que ce qui est très éprouvant, c'est la paradoxalité dans laquelle on vit. Plusieurs exemples. On a de plus en plus de demandes, mais vraiment, enfin, moi je peux le prouver sur 10 ans, les demandes ont explosé en pédopsychiatrie de secteur avec de moins en moins de moyens, ce qui est quand même un drôle de truc. Deuxième chose, les demandes qu'on a sont de plus en plus complexes par la comorbidité qu'il y a. C'est-à-dire que ce n'est plus un symptôme d'un enfant donné. C'est beaucoup de choses avec la façon dont l'enfant souffre en général. S'additionnent maintenant des problèmes familiaux, la précarité, des problèmes d'immigration, enfin des traumatismes transgénérationnels qui viennent beaucoup alourdir la question de l'enfant même. Et puis, une autre forme, de paradoxalité dans laquelle est noué le secteur, c'est qu'en fait, le secteur, il n'est pas tellement reconnu dans sa territorialité extra-hospitalière, puisque chaque secteur en France est rattaché à un hôpital. C'est comme ça depuis 85 ou de 88, tout secteur est rattaché à un établissement public, qu'il soit général, pédiatrique... psychiatrique. Donc, le secteur éprouve tout à fait ce que vivent tous les hôpitaux, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a une refonte de l'organisation des hôpitaux psychiatriques, avec, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la mise en pôle et puis les communautés hospitalières de territoire, qui quand même est une vaste action de fusion des moyens par restriction budgétaire, et évidemment que le secteur qui a une toute autre mission d'un point de vue de santé publique, est quand même pris là-dedans. Donc, on éprouve des choses très, très paradoxales. On voit bien que quand même, il y a, depuis maintenant 20 ans, il y a quand même un délitement du lien social, des liens sociaux de quartier, que finalement, les gens en crèvent aussi de ça. Enfin, que le secteur pourrait être dans la cité un des éléments, un des acteurs pour... renouer quelque chose d'une qualité du lien social. Et au contraire, on fait différemment. Enfin, l'avenir au secteur actuellement, ce n'est pas ça. Alors, je pense que ce n'est pas que la question de la gestion de l'hôpital qui peut répondre. Je crois qu'aussi le secteur a peut-être... j'ai envie de dire, même la psychiatrie a délaissé le secteur. Enfin, ce n'est pas que une cause économique ou gestionnaire. Je crois qu'il y a... Il y a eu un moment donné, moi, j'ai envie de dire, on ne va pas être nostalgique parce que nous, maintenant, notre mission, notre génération, c'est de recréer quelque chose. Mais quand même, le début du secteur, la création du secteur, c'est un moment clé dans l'histoire de la psychiatrie. Ça a été un moment extrêmement fécond, militant, avec des gens engagés politiquement. Mais effectivement, j'ai envie de dire, l'esprit du secteur... n'a perduré que quelques temps, c'est-à-dire que très vite, le secteur a été juste une modalité organisationnelle de soins, mais l'esprit pur initial du secteur ne s'est vu que dans des petits îlots de gens comme Tony Lainé, comme Bonafé, comme où là, ils avaient une vraie créativité, où ils défendaient vraiment quelque chose, la spécificité du secteur, avec des engagements de quartier, enfin avec des maisons associatives. Mais il y avait quelque chose qui était vraiment recréé dans la proximité. J'ai envie de dire, je pense que ça n'a pas été une généralité. Et que petit à petit, il y a eu un délitement très insidieux de tout ça. Et je dois dire, même dans le 14e, qui est quand même un arrondissement assez riche de culture, assez artiste, qui aurait pu aussi faire naître une qualité sectorielle très grande, moi je trouve que ça s'est délité. Alors je ne sais pas si c'est des enjeux politiques, des enjeux de pouvoir, mais finalement, à partir d'une mixité sociale qui aurait pu être un cœur battant magnifique où on peut faire plein de choses, je trouve que quand même y a peu d'initiatives, ou j'entends peu d'initiatives. Mais je pense que nous aussi, on a notre part de responsabilité là-dedans. Alors, c'est vrai que moi, je vois dans mon parcours, enfin dans ma pratique sectorielle, deux temps. Un temps de scission qui fait que je ne suis plus la même que... Ça aurait été intéressant de faire une interview il y a 5 ans et puis maintenant. Il y a 5 ans, je n'étais pas tout à fait réveillée. C'est-à-dire que j'avais une pratique, je pense, assez engagée. Mais j'étais une clinicienne. Je n'avais pas compris qu'il fallait défendre notre outil. Je pensais que notre outil serait toujours là. Dans une espèce d'utopie ou effectivement une espèce de sorte d'endormissement, on va dire, voilà, pris dans un quotidien. Enfin, j'étais créative, je pense, dans ce que je pouvais amener dans les outils auprès des enfants, des familles, mais je n'étais pas du tout dans une dimension qu'effectivement quelque chose pouvait s'arrêter de ça. Et puis, on a connu ce qui s'est passé quand même sur le secteur du 14e, c'est-à-dire qu'il y a eu un démantèlement du secteur avec la fermeture de nos unités de consultation de proximité, où tout a été regroupé sur un seul lieu, pas du tout adapté pour moi à une pratique de secteur. Ça a été une décision administrative, gestionnaire, mais aussi des responsables j'ai envie de dire médicaux, hein, qui ne se sont pas opposés à cette démarche-là. Et là, j'ai vu qu'effectivement, ça pouvait prendre fin, cette pratique de secteur. Ou en tout cas, on voulait nous faire croire qu'on continuerait une même pratique. Or, ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, le réveil a été très brutal. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais... Effectivement, là, il faut qu'on se batte pour arriver à sauver quelque chose qui, pour moi, est un acquis social fantastique. Enfin, c'est un outil fantastique de pouvoir se dire que, voilà, en France, n'importe quelle famille, n'importe quel enfant peut se rendre à proximité dans un lieu gratuit où ils ont juste à énoncer une adresse. Pas montrer leur carte vitale, pas montrer leur carte d'identité, juste dire, voilà, j'habite là. Et ils peuvent être reçus. Moi, pour moi, c'est un des derniers bastions de la politique de santé des années 70. Et donc, alors, je ne sais pas s'il faut que ça se poursuive comme ça. En tout cas, je ne connais pas d'autre outil qui peut répondre à ce que j'ai, la règle des... ce que j'appelle la règle des trois cercles, c'est-à-dire la mission de soins, la mission de prévention et la mission de protection dans la psychiatrie de l'enfant, dans cet abord de la prise en charge globale, c'est-à-dire intime, familiale, sociétale, avec toute cette participation dans un réseau de proximité avec des écoles, avec des structures d'aval comme l'USIS, du reste, ou des hôpitaux de jour. Je ne vois pas. Donc, effectivement, pour moi, ça a un avenir total parce que ça répond à une demande qui est là. Après, je comprends, je peux faire des hypothèses sur ce retour de balancier qu'on vit actuellement où le secteur, on pourrait se passer du secteur. J'y crois pas du tout. Là où j'en veux pas mal aux politiques, c'est qu'ils embrouillent, enfin ils brouillent les pistes, c'est-à-dire qu'ils gardent le mot secteur, mais c'est déjà plus le secteur, c'est-à-dire c'est ce qu'ils appellent, c'est une rénovation du secteur avec finalement la mise en place d'une territorialité où les choses ne vont pas du tout du côté de la créativité, où j'ai envie de dire, où que chaque secteur ait un peu sa patte, son empreinte en fonction de... en fonction de la façon dont les gens ont envie un peu de travailler, mais ça va être plutôt des choses très dirigées, qui viennent d'en haut, très gestionnaires. Voilà. Donc je pense que là, on perd totalement l'esprit du secteur, qui était aussi, je reprends la phrase de Bonafé, aller sur la place publique et demander ce qu'on peut faire pour vous. Voilà. Donc c'est quand même aussi aller à la rencontre d'une demande qui n'est jamais la même, puisque c'est une demande de proximité. Et en fonction de ce qu'on peut repérer des besoins, effectivement, il faut bâtir les outils qui sont des outils évolutifs, puisque la société évolue. Moi, alors, peut-être là où on n'a pas bien défendu le secteur, c'est que je trouve que, si je reprends un peu ce que j'ai au début, c'est comme une tranche de société. Et que ça, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça me donnait des points d'appui quasiment épidémiologiques de la société. C'est-à-dire que moi, en 15 ans, je peux à peu près dire comment a évolué l'arrondissement du 14e de ce que j'ai vu de ma pratique. Et que là-dessus, à chaque fois, j'ai eu comme ça en tête, je me dis, bon, il faut absolument qu'on travaille avec... les Anglo-Saxons, ça font ça très bien, c'est-à-dire des études longitudinales sur 20 ans. Et puis, ils rendent des données comme ça qui permettent aussi de, je pense, défendre une pratique. Parce que ça donne aussi...
D'objectiver
quelque chose. Et puis de rendre compte qu'à partir de ça, on peut affiner aussi peut-être des outils pour répondre à des évolutions sociétales ou des évolutions démographiques. Ça, on l'a pas... Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu passer dans ce que j'ai lu, ça c'est à faire, c'est évident que c'est à faire. C'est-à-dire, c'est toute la nébuleuse du secteur. C'est-à-dire, d'abord, le secteur, j'ai l'impression qu'on ne parle jamais de la même chose. C'est-à-dire que parler du secteur, ou de la sectorisation, ou de la pratique de secteur, ou de la clinique sectorielle, enfin, c'est pas la même chose. Et chacun... comment répondre à cette question ? Oui, ça, bien sûr, pour en arriver là, il a bien fallu qu'à un moment donné, il y ait suffisamment, j'ai envie de dire, d'ambivalence collective pour que le secteur soit à ce point-là en danger. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu français cette histoire-là. C'est-à-dire qu'au titre que c'est un acquis, on est assis sur cet acquis et il ne se passe rien. Ça ne bouge pas. Ou sinon, effectivement, je pense qu'on a été aussi dans ce mouvement des années, à partir des années 80 jusqu'à maintenant, où c'était quand même plus la mode l'hyper-spécialisation, devenir expert de. Et je pense que les gens brillants, les cliniciens qui étaient investis dans la recherche, ou se sont aussi beaucoup... se sont fait connaître sur des axes de spécialisation chez les ados, chez les bébés, et que du coup, l'aspect généraliste du secteur, je compare souvent les médecins généralistes au secteur. Excusez-moi, mais les médecins généralistes aussi, c'est quand même le parent pauvre de la médecine, alors qu'ils sont une des pierres angulaires, on a bien vu. À partir du moment où ils ne font plus le travail, les urgences sont engorgées, les patients ne savent plus où aller, enfin... J'ai l'impression qu'on peut faire une analogie entre quelque chose des médecins généraux, enfin de la médecine générale ou du secteur. C'est pas très sexy, c'est pas très porteur, c'est pas sauf que c'est totalement indispensable. Et je pense que cette façon où on ne peut pas se déroger, moi finalement ça a été aussi une sacrée leçon d'avoir affaire avec des familles qu'on ne choisit pas, mais dont on est presque dans l'obligation de s'occuper. Et ça fait un travail aussi. Ça fait faire un travail sur soi dans la clinique de jamais aucun a priori. Enfin, on en a forcément des a priori. Mais que finalement, il faut être le moins dans le prédictif, dans l'a priori, parce que finalement, on le sait, c'est les patients qui nous donnent les leçons les plus abouties. Hein. Donc, moi, c'est vrai que j'y tiens. Enfin, je sais pas comment dire. Alors, l'avenir du secteur. Soit le secteur est totalement liquidé et peut-être que ce qui va émerger, ce sera plus du côté de l'associatif, plus du côté, alors une renaissance comme ça, peut-être plus médico-sociale, mais du coup, alors le secteur qui est du côté du sanitaire, ben, on perd complètement ça. Mais peut-être que ce sera plus pris dans l'inventivité de la société civile. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose comme ça, d'un espèce de rebond. Donc, ce sera peut-être autre chose. Soit on arrive à, après cette espèce d'écrasement là, de l'idéologie sectorielle, de rebâtir quelque chose, mais qui soit entendu aussi d'utilité publique par les politiques. Mais pas entendu d'utilité publique par les politiques comme la mainmise de l'État là-dessus. Parce que ça ne marche pas. Il faut qu'ils nous laissent faire sur le terrain quelque chose de singulier, alors reproductible en gros, qui est une charte des secteurs, d'accord, mais la singularité de chaque secteur est très importante, à mon avis. Moi, j'étais toujours assez fière d'appartenir à une médecine qui pouvait faire cohabiter plusieurs courants et qui pouvait même se conflictualiser de façon heureuse, j'ai envie de dire. Moi, je trouve que là où ce qui me questionne, c'est que actuellement, on devient chacun des entités qui excluent l'autre. Enfin, je sais pas comment dire. Je veux pas faire du prosélytisme, mais finalement, dans ma pratique, par moment, j'ai besoin de spécialistes de certaines questions. Et j'ai besoin de faire appel à eux, mais c'est pas pour ça que je sais pas comment dire. C'est pas pour ça que je vais déroger à mes convictions psychanalytiques par rapport à ma pratique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une telle violence partout, mais qui infiltre aussi la question d'une complémentarité qui ne pourrait pas coexister? C'est-à-dire que la conflictualité heureuse de faire coexister une médecine qui est très plurielle chez nous, et qui est quand même un héritage, à mon avis, très important, on a l'impression que ça ne peut plus exister. Et ça pose problème. Alors, peut-être qu'on a fait vivre des choses j'ai envie de dire, certaines familles. Enfin, je pense à la question de l'autisme. Tout le monde pense à la question de l'autisme. Où finalement, quand même, là, on a un retour de bâton des associations, des lobbies extrêmement violents. J'ai envie de dire, à la mesure peut-être dont ils ont été traités, j'en sais rien, ou quand ils ont été traités par les différents courants de pensée ou les différentes approches. Mais on voudrait nous faire croire que, voilà, on ne peut plus cohabiter. Alors, moi j'y crois. Enfin, je ne veux pas m'en convaincre, franchement. Je pense que les centres référents, ça peut être hyper utile ou hyper intéressant. Les plateaux d'expertise, quand on a un problème, oui. Mais c'est toujours la question, c'est que si chacun, on ne fait pas exister l'autre, quand on fait une adresse ou quand on se pose une question, c'est dramatique parce qu'on est vraiment, alors là, du coup, dans le symptôme quasiment de l'enfant. Si on arrive à faire coexister chacun, je trouve que ça serait pas mal. Moi, je vois un truc que je ne voyais jamais avant, c'est que maintenant, on peut être sollicité en deuxième ou troisième intention en tant que secteur. Ouais. Donc, c'est quand même le paradoxe le plus complet. C'est-à-dire qu'on a un parcours d'un enfant où effectivement les rencontres des cliniciens se sont faites de telle sorte qu'il n'y a jamais eu de référent. Il s'est engagé plusieurs soins, soit des soins institutionnels, soit des soins en libéral. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui réagit en disant « Mais tout ça demande quand même, il faut qu'on recrée une cohérence d'ensemble. » Et on a besoin du secteur à ce moment-là.
Le chef d'orchestre.
Voilà.
Il est vrai.
Oui.
Ce que tu dis est complètement.
Mais c'est des choses qu'avant, nous, on voyait les premières demandes, on évaluait, on faisait une proposition de soins, et puis on demandait à une structure d'aval de faire suivre ce projet ou pas, et on restait dans cet arrière-plan qui effectue cette espèce d'arrière-plan de continuité. Et maintenant, on vient nous solliciter des années après, quand un enfant a échappé, n'a pas profité de cette approche sectorielle. Donc ça, je trouve que c'est quand même... Enfin, c'est un peu dans ce que tu disais. Alors, l'autre chose quand même sur la fondation du secteur. Il y a plusieurs choses. Sur un plan historique quand même, rappelez-vous que c'est juste après la guerre où des types entrés en résistance, enfin pour ne pas les nommer, que ce soit Toscaès ou Bonafès, se sont dit, mais attendez, on ne peut plus faire de la psychiatrie asilaire du fait des camps de concentration avec effectivement les exterminations des aliénés et surtout avec les 46 000 aliénés tués sur le sol français du fait qu'on les a laissés mourir de faim. Donc il y a eu cette espèce d'intolérable historique qui a forcené quand même quelque chose d'une demande de réparation collective, il y a eu ça. Et puis il y a eu, comme tu dis, les multiples courants des aliénistes, antipsychiatriques, mai 68, l'apport psychanalytique, tout ça a été une espèce de, quand même, de choses très, très bouillonnant, mais chaud bouillant, ça a été passionnel, les débats qui ont, et où a pu émerger le secteur. Mais vous voyez, à l'époque, quand même, on pouvait débattre et on pouvait être passionné sans pour autant que ça en vienne à quelque chose de mortifère. C'est-à-dire, moi, ce qui est très plombant en ce moment, c'est qu'on est du côté du mortifère quand on a des avis différents. Je porte peut-être aussi ça, j'en fais peut-être partie, mais je pense que c'est un symptôme de notre société qui fait... Et du coup, le secteur fait partie de ça. Le secteur, il peut pas répondre à tout. Et il ne faut pas qu'ils répondent à tout. Je pense que ce n'est pas bien. Mais, enfin, je vais vous donner un exemple. Ça m'a fait réfléchir. Dans les médecins récemment arrivés sur le secteur, là, de mon secteur, je me suis aperçue d'un truc. C'est qu'ils n'avaient pas en tête des lieux tiers. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils devaient porter sur leurs épaules toutes les réponses thérapeutiques que la problématique de l'enfant demandait. Or, je pense que le secteur, justement, ce qui doit porter comme dialectique et qui fait partie, à mon avis, de l'axe thérapeutique, c'est justement de supporter qu'il ne peut pas tout faire. Dans le sens où, moi, ce que je vois avec les familles que j'adresse ailleurs, Pour moi, ce n'est pas du tout me désengager ou me vivre comme incompétente. C'est au contraire faire un habit sur mesure thérapeutique pour l'enfant. C'est-à-dire d'être au plus près de ses besoins qui vont peut-être évoluer dans le temps. Mais ma mission, elle est celle-là. C'est-à-dire de faire éprouver à la famille que je ne suis pas tout puissante, que j'ai des tiers dans ma tête qui sont des structures d'aval ou des outils bien particuliers à un moment donné pour l'enfant, que je vais leur proposer. Alors peut-être tous ne disent pas d'accord, on y va, on est très contents. Hein. Quelquefois, il y a d'énormes résistances, mais je pense que cette pratique-là fait partie d'un axe thérapeutique. C'est-à-dire que du coup, on porte la question de la tiercéité. Et Dieu sait que dans beaucoup, beaucoup de pathologies, la tiercéité n'existe, le tiers n'existe pas. Et ça, je l'ai repéré aussi avec des jeunes médecins qui entraient dans le service où ils n'avaient pas la représentation, mais même dans l'arrondissement ou à proximité de l'arrondissement, de tout ce qui existait. Enfin, on peut le dire parce qu'on est à Paris. Je serais en province ou au fin fond de je ne sais pas où, je ne pourrais pas le dire avec cette tranquillité-là. Là, je peux dire que nous, on a à disposition mais des tas de choses et que voilà, moi je le ressens comme ça. Le secteur pour moi c'est une pratique généraliste qui doit porter quelque chose du sens du symptôme de l'enfant, qui doit faire travailler la famille et l'enfant sur quand même préparer justement le sens des traitements, c'est-à-dire c'est pas faire des prescriptions et au revoir, ciao, c'est travailler sur le symptôme, le sens du symptôme, la place de l'enfant dans la famille, tout en ayant aussi des outils à disposition et peut-être des outils extérieurs au secteur, mais qu'on a dans la tête toujours. Vous comprenez ce que je veux dire? Et voilà, et moi je fais sans arrêt des allers-retours dans ma pratique entre ce que je peux faire, proposer dans l'ici et maintenant avec les outils de mon secteur, de mon service, mais aussi tout ce que je connais des structures d'ailleurs. Et en général, ça marche à peu près. Voilà. Mais parce que dans le sens où vraiment symboliquement, je porte quelque chose d'un tiers, c'est-à-dire je ne suis jamais seule dans ma pratique. Voilà, bon, c'est comme ça que moi je verrais les choses.